Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, aujourd'hui avec au moins deux comédies, au moins deux films avec Vincent Rottier. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour,
et
vous
bonjour
êtes,
à tous.
Vous êtes partagé la tâche, vous avez chacun vu un film avec Vincent Rottier.
Oui, chacun ouais. Le sien. Moi c'est Espèces menacées avec Gilles Bourdos, et puis je chroniquerai également Le jeune Karl Marx dans un tout autre registre de Raoul Peck.
Et moi c'est Monet, un polar français, bah, en dépit du titre, hein, et puis Un beau soleil intérieur, le nouveau film de Claire Denis.
Qui est censé être une comédie romantique.
Qui est une comédie, qui est, en qui, fait.
Voilà.
Hein.
La première de Claire Denis. Et moi, j'aurais vu deux comédies, dont une, bah, c'est aussi la première, hein, de Michael Haneke, Happy End, et puis Le sens de la fête de Eric Toledano, Olivier Nakache. Et ce sera l'occasion d'ailleurs de les entendre dans Cinérama, puisque nous avons pu rencontrer le duo de réalisateurs. Et puis Michael Haneke, eh bien, lui, comme il était présent à Cannes et que nous y étions aussi, eh bien, on a ramené du son du réalisateur autrichien. C'est Cinérama qui débute avec Karl Marx.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors le film commence en 1844 dans une Europe submergée par la révolution industrielle. Les conditions de travail sont déplorables, la lutte des classes fait rage, avec d'un côté la bourgeoisie, les patrons et de l'autre les ouvriers, totalement exploités dans un seul but, le profit. Dans ce climat d'injustice galopante, des voix s'élèvent, mais l'une d'entre elles se veut plus radicale, plus combative que les autres, Karl Marx, ce jeune journaliste adepte de la pensée hegélienne qui, lui, ne veut pas simplement philosopher sur les inégalités, il veut appeler les travailleurs à la révolte, il veut conceptualiser la lutte, en faire une théorie pour éveiller le peuple. Rapidement censuré dans son Allemagne natale, Marx s'exile à Paris avec sa femme, très engagée elle aussi. Il y rencontre Friedrich Engels et tous trois vont rédiger les écrits qui seront à la base de la création du Parti communiste qui lui-même aboutira indirectement à la révolution de 1848, faisant émerger des partis ouvriers de l'Europe entière. Alors, en prenant ma place, le guichetier, je ne sais pas si on dit encore le guichetier de nos jours, me dit « une place pour Marx, bon courage, vous allez voir, c'est pas folichon ». Bah en effet, c'est pas très folichon. Hein. Alors la mise en scène n'est pas vraiment rock'n'roll. Bon, en même temps, le sujet ne s'y prête que moyennement, puisqu'il n'est pas question ici de la révolution hein, qu'a mise en place Marx, mais bien de la période qui la précède, au cours de laquelle les penseurs ont surtout théorisé. Et la théorie au cinéma, eh bien, ce n'est pas vraiment le plus facile à mettre en scène, comme on le sait. Le film a été tourné en trois langues, français, anglais et allemand. Et peut-être est-ce dû à cela, les dialogues sonnent souvent faux, ils sont trop surfaits, sans gros naturel. Le but du film, on le comprend bien, c'est de donner une vision de Marx qui soit moderne, qui soit vivante, pas celle d'un vieux barbu qui fume son cigare, afin de vraiment mettre en exergue l'intemporalité de son œuvre. Le point de vue adopté ici ne laisse pas trop de doute quant aux intentions du réalisateur et quant à la vision volontairement partisane qu'il adopte. D'ailleurs, Raoul Peck, donc le réalisateur, à la fois haïtien et berlinois, auteur du récent documentaire « I'm not sur Negro », est résolument marxiste. Hein. Mais voilà, il a beau montrer Marx se bourrer la gueule avec son collègue, faire des courses-poursuites contre les flics ou s'envoyer en l'air avec sa femme, l'essentiel du film consiste quand même à regarder des hommes à la mine austère débattre du capital et de la pensée hegelienne. L'entreprise de dépoussiérage de l'œuvre marxiste n'est donc pas totalement réussie, même si le film demeure intéressant. Mention spéciale tout de même à Auguste Diehl, qui joue le rôle de Marx, et qui parvient à le rendre tout à la fois crédible, accessible, et même à lui conférer un certain charme. Dommage que ce charme ne s'étende pas à l'ensemble du film.
On ne dira pas cinéphiles de tous les pays, unissez-vous, allez voir Karl Marx dans les salles.
Mais ça se laisse quand même voir, hein. Vraiment, ce n'est pas non plus raté. Mais c'est vrai que l'entreprise était quand même hyper ambitieuse. Donc c'est normal que ça ne soit pas totalement réussi.
À noter que dans le cinéma français, dernièrement, il y avait aussi, quand on parle du politique qui s'invite au cinéma, il y avait Les Anarchistes, film, c'était il y a 2 ans, je crois. Hein, voilà. À noter que Raoul Peck aussi est l'auteur de Hôtel Rwanda.
Et I am not a Negro.
Voilà, qui a été cité déjà. Ouais. On va écouter la première interview de cette émission.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Le duo Toledano et Nakache, à qui l'on doit l'un des grands succès du cinéma français, Intouchable, a décidé de s'attaquer à une comédie résolument portée sur les gags en nous emmenant dans une fête de mariage. Mais si habituellement, eh bien, ce genre de film nous place aux côtés des invités et des mariés, ici ce sont toutes les petites mains qui organisent le mariage qui importent, et en premier lieu Max, le maître d'œuvre interprété par un Jean-Pierre Bacri, on va le dire, en forme. Autour de Max, tous ceux qu'il a appelés pour que la fête soit réussie, serveurs, cuisiniers, plongeurs, orchestre et quelques bonus. Et si la soirée va pouvoir tenir, c'est que chacun garde le sens de la fête, ce qui ne signifie pas faire tourner les serviettes. Alors les réalisateurs font preuve de métaphore, puisque les employés sont à l'image de la France, hein, des blacks, des beurs, des blancs, des indiens tamouls et même un gendarme. Tout ce beau monde enchaîne les gags, les situations humoristiques et les bons mots à plein régime. Peu de répit pendant les presque deux heures que dure le film. Pour une comédie, c'est un risque, hein, de vouloir jouer la montre. Mari tête à claque, belle-mère volage, patron grognon, mais Bacri, est-ce qu'il peut faire vraiment autrement ? Sous-chef agressive, DJ survolté, serveur en extra, alors parfaitement idiot.
Tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson.
Ah ouais, parce que je me disais, quel rapport avec serveur ?
Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson.
Le loup, c'est un poisson.
Alors, les personnages sont nombreux et le rythme ne faiblit pas. Et Nakache et Toledano, ils vont franchement avec les running gags. Alors, il y a un personnage qui ne cesse de résumer ce que l'on sait déjà. Ça devient vraiment drôle. Il y a également l'ancien prof de français joué par Vincent Macaigne, en forme lui aussi, qui reprend tous ceux qui font des fautes de syntaxe ou des pléonasmes. Et puis aussi, eh bien, les textos tronqués qu'envoie Jean-Pierre Bacri. Une mauvaise manipulation du T9 qui amène un moment, eh bien, une scène franchement équivoque. Le sens de la fête est une bonne surprise, hein, servie par un bon casting. On écoute les deux réalisateurs nous en parler. Alors on s'excuse pour le son. Alors il y avait beaucoup de monde à cette conférence de presse. On a envoyé un stagiaire, il était un peu loin. Voilà, tendez l'oreille.
Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant.
Oui, mais c'est complètement l'esprit.
Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend. Une soirée chic, sobre et agréable. Aouh, qu'il vous roule.
Attendez, il me fait peur lui là.
Je vais voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air.
D'abord on a l'idée d'un sujet, ouais. De fil. On a des envies. Puis après, très rapidement, on va essayer de trouver les instruments de musique pour porter nos partitions. Et très vite, avant même d'écrire, on a été voir Jean-Pierre Bacri pour lui demander s'il serait partant pour un film avec nous, qui n'est pas écrit. Donc nous, ça nous sert à écrire le film. Et puis ensuite, on fait ça quelques fois pour nous stimuler, pour nous motiver, pour enrichir l'écriture. Puis ensuite, quand on a inventé le personnage de Max, on l'a écrit avec sa musique en tête et puis on s'est dit, bon, s'il nous dit oui, ce sera génial, et puis s'il nous dit non, on trouvera quelqu'un d'autre.
On n'a pas trouvé d'autres méthodes pour écrire, on a besoin de conceptualiser des visages.
On a un client important qui nous a fait confiance, hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main.
Je vais vous préciser quand même que je ne suis pas un grand orateur.
Eh ben ferme ta gueule alors, ça sera plus simple.
Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée.
Ce qui est génial avec le mariage, c'est qu'il y a un côté théâtral où effectivement il y a une mise en scène, les gens sont bien habillés, certains ont carrément des costumes particuliers. D'ailleurs, à un moment, il y a une phrase que dit Jean-Pierre qui nous a beaucoup fait rire quand on s'est imaginé le dire, c'est quand il tombe amoureux de la mariée, Vincent Macaigne, qui lui dit, est-ce que tu as remarqué sa robe blanche ? C'est ça le côté théâtral, c'est-à-dire c'est vrai que tout est installé et en fait tout peut être discuté dans cette installation.
Samy, t'es sûr de toi là pour les feux d'artifice ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai dit on se coordonne ! Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi ! À chaque soirée, je joue ma vie !
Pour moi, il n'y a rien de pire que d'aller voir une comédie et de ne pas rire. Quand on me promet de rire, et de ne pas rire, au moins, franchement, au moins une centaine de fois, dans deux heures, pas quatre fois, et les quatre fois que j'ai vues dans la bande-annonce. Donc, on essaye vraiment de créer des potentiels de mines qui doivent exploser à un moment ou à un autre. Toutes ne marchent pas.
Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos.
Pas du tout, hein, je suis
pas... Tenez, regardez si vous voulez.
Mais pourquoi il a écrit ça ?
Bah, l'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage.
Tu vois, c'est ce putain de correcteur.
Mais vous aviez reçu mon texto.
Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs.
Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis je viendrai vous lécher tout de suite.
Non. Oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur.
Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien.
Mais non, on se connaît pas bien.
Voilà, ça c'est l'aboutissement d'un des running gags, hein, avec les problèmes d'envoi des textos de Jean-Pierre Bacri. On trouve aussi Jean-Paul Rouve en photographe, en vieux photographe. Il y a Gilles Lelouch, donc, qui fait le DJ. Il y a aussi Kevin Azaïs, qu'on a vu dans Les Combattants. Il y a William Legbill qu'on a vu dans Soda ou dernièrement dans Chercher la femme. Enfin voilà, donc c'est un casting assez hétéroclite. C'est plutôt réussi, même si c'est une comédie, voilà, on va le dire franchement, qui se termine plutôt bien. Bon, c'est la marque de fabrique un peu des réalisateurs.
Mélange de comédie, de sentimentalisme.
On changera d'univers tout à l'heure avec la deuxième interview de l'émission, puisqu'on entendra Michael Haneke. Mais avant de passer à Michael Haneke, on est quand même à Cannes avec le film de Claire Denis qui était présenté.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Un beau soleil intérieur, un nouveau film de Claire Denis fait l'effet d'un trompe-l'œil et risque de surprendre les fervents défenseurs de la cinéaste, reconnue pour ses expérimentations formelles et la force sensitive de ses dispositifs très tranchés. Alors on se souvient du splendide Trouble Every Day, mais aussi d'œuvres marquantes comme J'ai pas sommeil, Beau travail ou White Material. La séquence d'ouverture tourne le dos à ce que la cinéaste sait faire de mieux, hein, filmer les corps, les scruter, les sublimer. Sauf qu'ici, bah, le coït entre Binoche et Xavier Beauvois est frontal, d'une platitude totale expurgée de la notion de désir. Claire Denis évacue sa marque de fabrique, l'envoûtement habituel d'un cinéma porté par une caméra caressante sur la musique de Tindersticks. Un beau soleil intérieur frappe par sa radicalité narrative et esthétique sans que l'on s'en aperçoive de prime abord. En cela, il y a une continuité dans la rupture. Hein. Cette comédie sentimentale, on peut dire ça, n'a absolument pas d'histoire au sens classique du terme, avec un début, une progression, une fin. On se rend compte a posteriori que toutes les scènes peuvent être inversées et changées les unes aux autres. Elles échappent même à toute temporalité, instaurant un climat abstrait peu courant dans ce type de production, souvent dicté par une mécanique convenue. La crise de la cinquantaine d'une fille qui cherche l'âme sœur n'est pas le sujet le plus excitant du monde, hein, enfin, du moins en ce qui me concerne. Il me ferait même plutôt fuir. Alors, sauf que, déjà, il y a Juliette Binoche, un magnifique, pleine de vie et de verve, qui assure le spectacle à elle seule. Alors, dans la peau d'Isabelle, séparée et avec un enfant, qu'on ne voit d'ailleurs jamais, elle est divine. Isabelle est donc entourée d'une bande de salauds, pour reprendre le titre du précédent film de Claire Denis, une galerie de personnages assez antipathiques, voire abjects. Le banquier joué par Xavier Beauvois est juste repoussant, à côté de leur pompe égocentrique, pervers. Alors, ces portraits peu reluisants de la gente masculine pourraient horripiler, sauf qu'une ironie, une vitalité traversent ce film sec et modeste qui impressionne par son flux de parole. Alors, les dialogues coécrits par Christine Angot, hein, romancière que j'apprécie guère pourtant, alors sont brillants, incisifs, subtils et drôles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu dans un film français un tel plaisir de la langue, de s'amuser aussi avec. Les passages les plus euphorisants restent les échanges entre Isabelle et un acteur de théâtre auto-centré sur lui-même, génialement incarné par un surprenant Nicolas Duvauchel.
Moi j'aime l'avant, j'aime tout ce qui est avant.
Du tout.
Et là c'est fait, c'est derrière. Et trop vite. Sans que j'ai eu le temps de me rendre compte, de voir ce qui arrive. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant, tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant.
Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois.
Ah, oui. Bah, la première fois, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc, il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois, ça. Parce que oui, la première fois, c'est fait, on est d'accord. On n'y revient plus. Donc, il y aurait encore un avant après.
On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Je suis solidaire.
Mais je pensais que tu voudrais qu'on se revoie, quand même. Tu m'étonnes, là, dans ta réaction. Je pensais pas que ça te conviendrait.
C'est incroyable, toi, c'est pas vrai. Je te dis non, je suis solidaire.
Bon, bah, très bien, très bien. De toute façon, y a pas d'autre solution, non? Y a pas d'autre solution.
De toute façon, là, je vais partir. J'ai promis de rapporter une pizza en m'attendant chez moi.
Alors, comme il y a beaucoup de dialogues, on s'est permis de laisser durer celui-ci.
Alors, ce verbiage, parce qu'il s'agit bien de ça, même d'un verbiage, mais il n'est vraiment pas gratuit. Les mots empêchent littéralement l'action d'évoluer. Les personnages créent à chaque fois par le langage des situations antinomiques qui bloquent tout élan. Alors, ils disent tout le contraire et leur contraire, et restent cloués au sol dans l'incapacité de prendre une décision tout en dévoilant beaucoup d'eux. Mais si les mots ne sont que des mots, ils définissent à merveille le tumulte intérieur qui secoue les personnages. Un beau soleil intérieur ne ressemble pas à ces sempiternelles chroniques de la femme délaissée en quête de relations impossibles. Même si l'héroïne recherche en fait l'amour, elle n'idéalise rien. Elle se perd et papillonne et demeure surtout un personnage très contemporain à l'heure des rencontres chaotiques via les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Elle croise dedans beaucoup d'hommes, dont un Philippe Catherine aussi, un délicieux de préciosité décalée, fidèle à son personnage finalement. Alors à la noirceur habituelle de son cinéma, Cardoni ouvre une brèche vers une œuvre plus solaire, non dénuée d'inquiétude, mais humaine et chaleureuse. La maîtrise formelle est toujours présente, mais de manière moins visible. La caméra fixe les personnages et laisse se perdre dans les pires contradictions sur l'existence, l'amour, la vie, bref. On pense parfois à Aung San Suu, en moins émouvant, cela dit, ou à Romer.
Et moins alcoolisé.
Et moins alcoolisé aussi, ça sera toujours le cas. Alors... Cardoni n'évite pas quelques longueurs et son propos peut paraître un peu léger, mais elle réinvente une manière d'appréhender le cinéma d'auteur éloigné d'une certaine pédanterie bobo ou un romanesque de pacotille. Et puis la grande scène finale permet à Gérard Depardieu de s'engouffrer dans un numéro d'acteur absolument sidérant sur lequel le générique va se poser brusquement, laissant ainsi le comédien débiter un texte foisonnant, absurde et presque poétique. Un moment fabuleux.
Ça fait même aimer Gérard Depardieu.
Ah, mais moi qui n'aime pas trop...
Ni Christine Angot, ni Gérard Depardieu.
J'ai été surpris et séduit alors que ce n'était pas évident.
Film de Claire Denis, donc, sur les écrans. Alors après, la fresque historique, la comédie, celle sentimentale, on va passer au drame avec toi, Marine.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément. L'autre enfoiré, hein. Tu l'as revu ces derniers temps? Petit coup, vite fait. Hein?
Ça te ressemble pas? Alors, Espèce menacée raconte trois histoires, sans pour autant être un film choral. Trois histoires d'amour contrarié, mais surtout de relations filiales, qui s'effleurent sans jamais réellement se rencontrer ou s'entrechoquer. Il y a Joséphine, jouée par Alice Issas, dont le mari, Vincent Rottier, qu'on entendait à l'instant, devient vite violent et possessif. Il y a ses parents qui assistent impuissants à la déchéance de leur fille. Il y a Mélanie qui annonce à son père, Eric Elmosnino, qu'elle est enceinte, mais de son prof qui a 40 ans de plus qu'elle. Il y a Anthony, étudiant totalement submergé par sa mère envahissante, dépressive, qui maintient avec lui une relation malsaine et quasi incestueuse. Et alors tout cela se déroule dans une ville de Nice, désertée par les touristes, dépossédée de sa foule de vacanciers, sous un soleil d'hiver qui sied bien au teint de ces personnages largués par la vie.
Papa, on va se marier, Yann et moi.
C'est une sacrée nouvelle, hein?
C'est pas ça qui est le plus dur à annoncer.
C'est pas ça, mais c'est quoi alors?
Yann a 63 ans.
Mais il a 63 ans?
Oui.
Non mais putain, Mélanie! Ton fiancé a 18 ans de plus que ton père!
Alors par contre, contrairement à ce que peut laisser penser peut-être cet extrait, ce n'est vraiment pas drôle. Le film à aucun moment n'est drôle. Le seul défaut finalement qu'on peut trouver à Espèce menacée, c'est peut-être qu'on en cherche encore le sens. Est-ce que le film, qui est d'ailleurs une adaptation d'un roman, veut démontrer à quel point la vision des parents influe sur la vie sentimentale des enfants? Est-ce qu'il a pour seule ambition de montrer des fragments de vie? On ne sait pas trop, même si ça ne l'empêche pas d'être vraiment réussi. Beaucoup de choses sont seulement suggérées, quelques échappées oniriques comme ça permettent d'améliorer un drame qui aurait sans doute sans cela été assez basique et qui s'avère très subtil, très sensible. Cette mise en scène, du coup, il en résulte une grande intensité, beaucoup d'émotions, presque un peu trop en fait. On est tellement mal lorsqu'on sort de la salle qu'on a un peu l'impression d'avoir eu un feel bad movie. Alors oui, je sais Vincent, ça s'appelle un drame, mais Espèce menacée pousse le concept quand même un peu plus loin. Le film est d'une cruauté assez folle avec ses personnages. Il ne leur laisse pas beaucoup d'espoir, voire pas du tout d'échappatoire. Et du coup, mieux vaut quand même être en forme quand on va le voir. Alors, Alice Issas est absolument bouleversante. Ça sent le rôle à César à plein de nez. Mais elle n'est que la pièce maîtresse, finalement, d'un casting ultra crédible, très bien dirigé, qui enfonce vraiment le clou de la véracité en poussant l'identification du spectateur à son paroxysme. C'est du coup un film où on s'en prend plein la gueule. C'est très dur à voir, mais vraiment, il est réussi. Il est vraiment bouleversant.
Bon. Le Claire Denis un peu plus léger, si j'ai bien compris, et celui-ci, voilà. Merci. On passe à un film qui ne sera pas forcément léger non plus. C'est une espèce de drame qui flirte avec la comédie noire, Happy End de Michael Haneke.
Et maintenant,
Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Voilà un film qui ne peut pas laisser indifférent, annoncé comme une comédie noire. Happy End, le nouveau film de Michael Haneke, nous immerge dans une famille de notables à Calais, la ville du Nord, lieu de passage emblématique des immigrés en Europe. Et d'Europe, il est question, de notre société, la seule qu'Haneke connaisse et qu'il mette en scène à longueur de film, avec la violence qu'elle déploie. Tout autour, le monde et nous au milieu aveugle, indique le réalisateur en guise de note d'intention et de synopsis instantanée d'une famille bourgeoise européenne, peut-on voir en sous-titre. Rien qui n'indique pourtant une comédie, du moins. Ce n'est pas une comédie où l'on rit à gorge déployée, on s'en doute. Le cinéma d'Haneke, c'est un univers de la distance, victime d'une certaine froideur qu'on pourrait trouver si clinique tellement l'ambiance est mortifère. Alors faisons vite. Dans cette famille Laurent, il y a le patriarche, interprété par Jean-Louis Trintignant, dont l'obsession est de mourir. Il y a sa fille, jouée par Isabelle Huppert. Elle tient les rênes de l'entreprise familiale de bâtiment dont elle veut redresser les comptes. Il y a le fils médecin, interprété par Mathieu Kassovitz, alors d'une neutralité déconcertante, y compris avec sa propre fille, et qui ne déploie son désir qu'au travers de sa maîtresse en utilisant des détours lubriques. Il y a également le petit-fils, futur héritier de l'entreprise, alors là, littéralement étouffé par les enjeux et surtout par sa mère. Enfin, il y a une petite fille, la propre fille du personnage de Mathieu Kassovitz. Elle arrive au beau milieu de ce monde parce que sa mère, eh bien, elle a fait une tentative de suicide, mais sous son apparente candeur, des signes nous montrent qu'elle a pu être à l'origine de l'intoxication médicamenteuse. Voilà. Bienvenue dans ce puzzle où s'entremêlent également des serviteurs d'origine maghrébine, des travailleurs du bâtiment sans papier et des migrants. Haneke organise une farce sinistre, une partition lugubre, une drôlerie macabre, mais rien de drôle, sinon dans l'excès dont Haneke peut s'amuser. Alors qu'on le prenne comme on veut, Happy End, dont le titre est déjà ironique, a l'avantage de fournir un point de vue sur notre société, en exposé l'aveuglement des individus qui la composent. Si les personnages sont capables d'aller loin dans leur aveuglement, Haneke ne va pas les juger, mais prendre du temps avec eux. Côté mise en scène, un film d'Haneke se reconnaît à ses thèmes, à ses personnages, à l'abondance de plans séquences, ou encore à ses sons parasites issus du monde médiatique venant contaminer la fiction. Les acteurs s'en tiennent à leur dialogue et tout est tiré au cordeau. Alors pour tous les inconditionnels d'Haneke, dont je suis, ce ne sera sûrement pas le meilleur de ses films, mais pas le moins inintéressant non plus. C'est peut-être le plus contemporain, parce qu'on voit l'arrivée des réseaux sociaux et c'est ainsi que commence le film. On écoute le réalisateur autrichien qui est à Cannes, où l'accueil réservé à son long métrage fut plutôt glacial.
Tu n'aimais pas maman. Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus.
Non, le film a un humour un peu tordu. Ça.
Je tiens à vous remercier, au nom de notre famille, d'avoir accepté aussi promptement et en aussi grand nombre notre invitation à fêter avec nous les 85 ans de papa.
Dans mon écriture et aussi dans la mise en scène, j'essaie de donner des indices aux spectateurs, mais laisser le travail dans la tête ou dans le cœur du spectateur. Et je ne veux pas empêcher ça en disant ce que je voulais dire.
Étrange.
Qu'est-ce qui est étrange ?
Qu'elle soit là, présent.
Papa.
Tu veux rester ici ?
Papa. Sa mère est à l'hôpital, je te l'ai déjà dit deux fois. Elle a une grave intoxication. Eve va rester ici jusqu'à temps qu'elle se remette.
Excuse-moi, je suis gâteux, je sais. Donc, tu ne vas pas rester ici. Et ça va, j'ai compris maintenant.
Comme auteur, on est toujours en train d'être en recherche pour un nouveau thème. Et naturellement, j'espère que je traverse la vie avec des yeux ouverts. Et naturellement, on ne peut pas parler de cette société d'aujourd'hui sans parler de notre aveuglement vis-à-vis de la vraie vie. Et ça m'a... Parce que ça, je vis tous les jours. Je cherche jamais un thème. Ça m'ennuie. C'est un peu le processus dans les stations télé. On a un nouveau thème, bon, on fait un film sur ça. Et en général, ça devient qu'un cliché. Alors on doit être touché par quelque chose pour pouvoir écrire des choses un peu plus profondes. Et finalement, je ne veux même pas savoir pourquoi l'une ou une autre chose m'intéresse. Ça m'intéresse et ça m'arrive et ça me met en marche intellectuellement ou émotionnellement. Et après un certain temps, ou ça devient un film, ou je jette à la poubelle, ça devient rien. Mais je ne veux pas m'expliquer pourquoi je fais ça. Non, oui, c'est vrai, parce que naturellement, le film sort une certaine amertume vis-à-vis de notre façon de vivre, d'être... de s'occuper que de notre propre nombril et pas de la vie qui nous entoure. Et ça m'énerve, aussi vis-à-vis de moi-même. Et voilà, c'était le but du film, si vous voulez.
Quand même, bienvenue au club.
Je pourrais faire le même histoire en Autriche, en Allemagne, n'importe où. Le sujet, c'est plutôt notre façon de vivre, notre autisme.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Alors, lors de cette conférence de presse de Cannes, qui a duré près d'une heure, les questions viennent du monde entier. Et elles ne sont pas forcément toutes bonnes. Ça, c'est les questions des journalistes. Ce n'est pas tout le temps réussi. Et Haneke s'est permis quelques petites rectifications, notamment voilà ce qu'il déteste.
Je trouve la question la plus mauvaise que vous pouvez poser à un acteur, de lui faire expliquer son rôle. C'est mortel.
Voilà, il a fait rire tout le monde. Happy End sur les écrans depuis le 4 octobre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Le polar français est déjà une histoire géographique. Lorsqu'il s'agit d'ancrer le genre dans un univers social prolétaire, la surprise est rarement au rendez-vous. Les intrigues développées se déroulent généralement dans le Nord, territoire propice aux récits déprimants peuplés de chômeurs en fin de droit, de dealers minables et de jeunes à la dérive. Alors Monet n'y échappe pas. Ne vous laissez donc pas abuser par un titre qui renvoie au cinéma américain, même s'il y a des références évidentes, mais davantage du côté de la littérature, et en l'occurrence Jim Thompson, ce film noir reste un produit bien de chez nous, dont l'action se situe au Havre, une ville sinistre, enfin sinistre dans le film, je ne veux pas me fâcher avec les Havrais, oui, Havrais, certainement.
Et avec le Premier ministre.
Oui, le Premier ministre, je n'osais pas en parler. Donc noyé dans le brouillard et des quartiers glauques capte formidablement la caméra de Jela Babluani dès les premiers plans. Et ce n'est pas l'apparition des personnages principaux qui va nous remonter le moral, archétype même des jeunes sans avenir, noyés sous les problèmes. Ils survivent grâce à des petits trafics et des boulots sans lendemain, jusqu'au jour où ils ont l'opportunité de s'en sortir.
On a un plan pour se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bim.
La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai fait un mot tôle.
Non, t'inquiète.
Attends, laisse-nous t'expliquer.
C'était hier, fin d'après, mais j'étais au boulot. Devant le bar, il y avait une voiture garée. Je passe devant, et dans la voiture, je vois un mec, il regarde une valise pleine de flouze. Je vois un coup d'œil, là, paf, 500 pas, je crois. Le mec, il sort de la bagnole, il donne la valise à un des mecs dans le bar. Au bout d'un moment, il y a tout le monde qui se casse, sauf le mec qui est là avec la valise. Je me dis, je vais le suivre. Je le suis, le mec, il va vers la ville haute. Là, je vois sa baraque. Jamais vu ça. C'est un château, tu vois. Et puis, je...
C'est du lourd, mon pote. Oh, une valise pleine de flouze.
Okay. Ça va ?
Bien.
Est-ce que vous branlez ?
Oh, prépare un braquage.
Mais oui, l'argent comme source illusoire du bonheur. Évidemment, on sait que ça va pas forcément bien se passer, tout ça. Car ce qu'ils ne savent pas, un peu nos pieds nickelés, c'est qu'ils viennent en réalité de braquer un secrétaire d'État corrompu et que l'argent provient d'une organisation criminelle baignant dans des trafics de drogue. Alors le petit coup vite fait bien fait se transforme en un véritable cauchemar sans issue. Rien de très original au fond, le sort de petite frappe attirée par l'argent facile soudain aspiré vers une spirale de violence a dû être filmé des milliers de fois au cinéma. Alors peu importe, c'est le traitement qui est important dans un cas comme ça. On pouvait compter sur le talentueux cinéaste georgien, auteur en 2005 d'une petite merveille à la noirceur absolue, 13 Zametti, pour donner un coup de sang à un sujet convenu. Alors Babluani a d'ailleurs réalisé aussi un remake américain de son propre film avec Jason Statham et Mickey Rourke. J'ai trouvé ça sur... je ne m'y attendais pas. Je crois que le film n'est même pas sorti en France. Alors depuis ses débuts fracassants, le cinéaste a un peu perdu la main. La mise en scène de son nouveau film est soignée, mais ne fait jamais oublier l'indigence d'un scénario mal écrit, souvent incohérent. Alors c'est bien filmé, bien cadré, bien photographié, mais on n'y croit pas une seconde. La faute à une succession d'invraisemblances et de retournements de situation fumeux qui empêchent toute adhésion. Alors première invraisemblance, et certainement pas des moindres, on ne comprend pas pourquoi les jeunes, au début, sauvent le notable du suicide, à part justifier le fait que sans cet acte, le film n'existe pas. Et le reste suit cette trajectoire chaotique cousue de fil blanc où rien ne fonctionne. Les personnages ne sont que des enveloppes vides, les renvoyant à leur fonction et à un imaginaire de film noir sans qu'il n'y ait jamais la moindre surprise, le moindre détail insolite. Les gangsters ont des sales gueules, en fait. Le notable est un bourgeois véreux et les jeunes désœuvrés, des abrutis incultes. Alors la direction d'acteurs, je ne dirais pas mauvaise ou approximative, mais elle ne relève pas vraiment le niveau entre un Vincent Rottier qui n'en finit plus d'endosser les mêmes rôles et surtout comble du grotesque, mais en même temps, là, ça peut faire rire, un Benoît Magimel bedonnant. pathétique en tueur à gages. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai ri, en fait, à son apparition. Mais j'ai lu quelque part dans un autre journal qu'il faisait une prestation hallucinante. Mais on ne voit que lui.
Qui sera peut-être sa dernière, puisque de toute façon, maintenant, il est en prison. Donc...
Bon. On a aussi un peu de peine de voir la très rare Anouk Grimberg fatiguée dans la peau d'un personnage un peu attirant. Le talent visuel de Jayla Babylani ne transcende jamais ce polar à la noirceur préfabriquée et à la dimension absurde déjà vue sur le principe qu'à chaque fois qu'on essaie d'améliorer les choses, la situation empire.
Eh bien, merci Manu. Et les films sur Le Havre, on en parlait finalement pendant l'extrait. Il y en a eu un certain nombre. Il y a eu Coris Maki avec un film qui s'appelle Le Havre. Il y a eu
38 témoins de
Lucas Bellevaux. Et puis, alors, j'ai pas retrouvé le nom du duo Fiona Gordon et qui avait fait aussi un film là-bas. Voilà. On aurait pu faire même un blind test spécial Le Havre.
Voilà. Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Aujourd'hui, nous avions deux interviews et deux comédies. La semaine prochaine, on garde le même chiffre, mais pas des comédies.
Oui, alors moi, il y aura une interview de Laurent Cantet pour L'Atelier et une autre interview de Tony Marshall pour Numéro 1.
Et moi, je vous parlerai de Détroit et de Blade Runner 2049.
À la semaine prochaine.